Chapitre 3. Roland prend son médicament. 1. Jack Mort était maintenant conscient de la présence du pistolero. S'il s'était agi d'un autre, d'un Eddie Dean ou d'une Odetta Holmes, par exemple, Roland aurait tenu palabre avec lui, ne fût-ce que pour ôter à cet homme un peu de cette confusion et de cette panique bien naturelle pour quiconque se retrouve brutalement sur le siège du passager, dans ce corps dont il avait depuis toujours tenu le volant. Mais parce que Mort était un monstre, et de la pire espèce, bien pire même que ne le serait, ni ne saurait jamais l'être, Detta Walker, il ne fit aucun effort pour s'expliquer, et jugea même inutile de parler. Le type n'arrêtait pas de se plaindre. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et pissait dans un violon. Le pistolero se concentrait sur sa courte liste d'urgences, mettant sans scrupule à contribution l'esprit de son hôte. Les plaintes se firent cris de terreur. Roland continua de les ignorer. Pour ne pas être chassé d'un tel esprit par sa pestilence, il aurait fallu n'y voir qu'un atlas doublé d'une encyclopédie. Mort disposait de toutes les informations dont Roland avait besoin. Son plan d'action se réduisait à une ébauche, mais souvent mieux valait de grandes lignes qu'un dessin trop fouillé. Pour ce qui était de programmer leurs entreprises, on aurait pu trouver dans l'univers entier deux créatures plus opposées que Roland et Jack Mort. Se borner à tracer les grandes lignes de ce qu'on va faire laisse de la place pour l'improvisation. Or, l'improvisation à court terme avait toujours été l'un des points forts du pistolero. 2. Un corpulent personnage avec des lentilles sur les yeux, comme le chauve qui avait passé la tête dans le bureau de Mort 5 minutes auparavant. Apparemment, dans le monde d'Eddie, bon nombre de gens portaient ce genre de lentilles que la Mortcyclopédie désignait par le terme de « lunettes ». Monta dans l'ascenseur avec lui. Le regard de l'homme se fixa sur l'attaché caisse de celui qu'il croyait être Jack Mort, puis sur Mort lui-même.
« Tu vas voir Dorfman, Jack ?»
Le pistolero s'abstint de répondre.
« Parce que... si tu crois pouvoir lui parler de sous-location, je peux te dire que c'est une perte de temps, »
dit l'obèse qui cligna des yeux en voyant son collègue faire brusquement un pas en arrière. Les portes de la petite cabine s'étaient refermées. Il tombait. Roland se jeta sur l'esprit de Mort, sourd aux cris de celui-ci, et constata que tout était normal. Il s'agissait d'une chute contrôlée.
« Si t'estimes que ça te regarde, excuse-moi, » dit l'homme. Et le pistolero pensa.
« Encore un qui a peur de lui. »«
Tu t'es mieux débrouillé avec cette enflure que quiconque dans la boîte. Voilà ce que je pense. »
Roland garda le silence. Il attendait d'être sorti de ce cercueil dégringolant.
« Et d'ailleurs, je me gêne pas pour le dire !»
s'empressa d'enchaîner l'homme.
« Figure-toi que pas plus tard qu'hier, je déjeunais avec... »
La tête de Jack Mort pivota, et derrière ses verres cerclés d'or, des yeux d'un bleu différent de celui des yeux de Jack Mort se rivèrent sur l'obèse. « Ta gueule !» fit le pistolero sans intonation particulière. Les traits de l'homme perdirent toute couleur et ce fut à son tour de reculer. Ses fesses molles s'aplatirent sur le panneau de faux bois au fond du cercueil ambulant qui soudain s'arrêta. Les portes s'ouvrirent et le pistolero, toujours vêtu du corps de Jack Mort comme d'un complet étriqué, sortit sans un regard en arrière. L'homme garda son doigt sur le bouton « ouverture des portes » et ne quitta pas l'ascenseur avant que Mort ait disparu.
« Il y a toujours eu un grain, » songeait-il.
« Mais cette fois, on dirait que c'est plus sérieux. Il pourrait bien nous piquer sa crise. »
Le corpulent collègue de Jack Mort trouvait particulièrement rassurante la perspective que celui-ci fût enfermé dans un asile. Le pistolero n'en aurait pas été surpris. 3. Quelque part entre la salle bruissante d'écho pour laquelle sa Mortcyclopédie donnait le mot « hall », à savoir un endroit par où s'effectuait l'entrée et la sortie des bureaux remplissant cette tour qui montait jusqu'au ciel, et la rue baignée de soleil, la Mortcyclopédie la nommait indifféremment 6e avenue ou avenue des Amériques. Roland cessa d'entendre hurler son hôte. Donc la terreur eut fini par le tuer. Le pistolero sentait, intuition qui avait chez lui valeur de certitude, que si Morte mourait, leurs cas respectifs seraient expulsés à jamais dans le vide des possibilités qui s'étendaient par-delà les mondes matériels. Pas mort, donc, mais évanoui. Évanoui sous la violence d'une surcharge de panique et d'étrangeté, au même titre que le pistolero quand il était entré dans l'esprit de cet homme et en avait découvert les secrets, un entrecroisement de destins trop exceptionnel pour ressortir de la pure coïncidence. Il n'était pas mécontent que son hôte eût tourné de l'œil du moment que cette perte de connaissance n'affectait en rien son accès à la morte cyclopédie. C'était même un soulagement de ne plus l'avoir dans les pattes. Les voitures jaunes étaient un service communautaire nommé taxis. Ceux qui les conduisaient se répartissaient entre deux tribus. Les Spix et les Mokis lui apprirent son ouvrage de référence. Pour en arrêter un, il suffisait de lever la main comme un gosse à l'école. Roland procéda au rituel. Après qu'un certain nombre de taxis furent passés devant lui sans même ralentir, bien que manifestement vides, à l'exception du chauffeur, il prit conscience de leur point commun. Le capuchon sur l'enseigne. Il attendit d'en voir un affichant « libre », ce qu'il lut sans recours à la morte cyclopédie. C'était des grandes lettres. Et il leva de nouveau le bras de morte. Le taxi pila. Le pistolero ouvrit la portière de derrière et monta. Une odeur de tabac refroidi, de parfum, de vieille sueur l'assaillit. La même que dans les diligences de son monde. « Où va-t-on, l'ami ?» demanda le chauffeur. Était-ce un Spix ou un Moki? Roland n'en avait pas la moindre idée, ni la moindre intention de poser la question. Il se pouvait qu'en ce monde, ce fût considéré comme une impolitesse majeure. « C'est que je ne sais pas très bien, » dit Roland. « On n'est pas ici pour causer, l'ami. Je gagne ma croûte, moi !» Dis-lui d'enclencher son compteur, lut Roland dans la morte cyclopédie. Enclenchez votre compteur, dit-il. Et il va me débiter que du temps, rétorqua le chauffeur. C'est pas ça qui fera marcher mes affaires. Dis-lui qu'il aura 5 tickets de pourliche, conseilla la morte cyclopédie. Vous aurez 5 tickets de pourliche. Je veux les voir. Rétorqua l'autre. Demande-lui s'il veut ce fric ou s'il veut aller se faire foutre, souffla aussitôt la morte cyclopédie. Vous voulez ce fric ou vous voulez aller vous faire foutre, répéta le pistolero glacial. Un court instant, le taxi posa un regard effaré dans son rétroviseur, puis il se tut. Roland mit son silence à profit pour consulter, plus attentivement cette fois, la banque de données réunie par Jack Mort. Le taxi jeta un nouveau coup d'œil dans son rétro durant les 15 secondes que son client passa la tête légèrement inclinée, la main gauche sur le front comme s'il avait un urgent besoin d'excédrine. Il avait déjà décidé de placer à son tour le type devant un choix. Se casser ou voir rappliquer le flic qui l'allait rameuter par ses cris. Quand le dit client lui rendit son regard et dit « Je voudrais que vous m'emmeniez au carrefour de la 7e et de la 49e. Je vous paierai cette course 10 $ de plus que le tarif marqué au compteur, quelle que soit votre tribu. » « Ok, » se dit le chauffeur, un bon wasp du Vermont qui tentait de percer dans le showbiz. « J'ai affaire à un dingue, mais peut-être à un dingue plein aux as. » Il embraya. C'est comme si on y était, mon pote. Et tandis qu'il se glissait dans le flot des véhicules, il ajouta mentalement « Et dommage que ce ne soit qu'une figure de style, car le plus vite sera le mieux. » 4. Improviser. Tel était le maître mot. Descendant du taxi, le pistolero repéra la voiture bicolore garée un peu plus bas. Et sans recours au lexique de Jack Mort, lut « Patrouille » à la place du « Police » écrit dessus blanc sur bleu. Deux pistoleros étaient assis à l'intérieur, sirotant leur café dans des tasses de papier blanc.
Des pistoleros, oui, mais gras et mous.
Il sortit la bourse de Jack Mort. Le mot courant était « portefeuille ». Mais « bourse », cité entre autres synonyme par la Mortcyclopédie, amusait Rolland, qui avait peine à imaginer un voyageur réussissant à faire entrer son barda dans un si petit sac. Et tendit au chauffeur un billet portant le chiffre 20. L'homme redémarra aussi sec. Il s'agissait à coup sûr du plus gros pourboire qu'il s'était fait de la journée, mais vu l'allure de ce barjo, il en avait mérité chaque centime. Le pistolero reporta son attention sur l'inscription dominant le magasin.
Clemens, armes et articles de sport, munitions, matériel de pêche, fac-similé estampillé.
Il fut loin d'en comprendre tous les termes, mais un coup d'œil sur la vitrine lui suffit pour constater que Mort l'avait amené au bon endroit. Il y avait là des bracelets de force, des insignes, et surtout des armes à feu. Plutôt des fusils, mais aussi des pistolets. Une chaîne courait de l'un à l'autre, passée dans chaque pontet, mais c'était sans importance. Il saurait ce dont il avait besoin une fois qu'il le verrait. S'il le voyait. Rolland consulta l'esprit de Jack Mort, un esprit assez retors pour répondre à ses desseins. Et cette nouvelle prise de renseignement dura plus d'une minute. 5. Dans la voiture Pie, un des deux flics enfonça son coude dans le flanc de son collègue.
« Vise un peu, » dit-il.
« Ça, c'est un consommateur qui ne se laissera pas coller n'importe quoi. » L'autre éclata de rire.
Mon Dieu, fit-il d'une voix efféminée, alors que l'homme en costume trois pièces et vert cerclé d'or mettait un point final à son examen des pièces exposées en vitrine et poussait la porte du magasin.
Je crois qu'il vient juste d'arrêter son choix sur cette délicieuse paire de menottes mauves.
Le premier flic s'étouffa sur une gorgée de café tiède, mais réussit l'exploit, tout en pouffant, d'en recracher l'essentiel dans sa tasse.
6. Presque tout de suite, un vendeur apparut et proposa ses services.
« Je me demandais, répondit l'homme au complet bleu, si vous n'auriez pas un papier. »
Il s'interrompit, parut s'absorber dans ses réflexions, puis releva la tête.
« Je veux dire, un tableau avec le dessin des munitions pour revolver dont vous disposez. »«
Un tableau des calibres ? » demanda le vendeur. Le client marqua une nouvelle pause.
« Oui, » finit-il par dire. « Mon frère a un revolver avec lequel j'ai déjà tiré, mais ça remonte à pas mal d'années. Je me sens toutefois capable d'en reconnaître les balles si je les vois. »«
Vous croyez en être capable, mais rien n'est moins sûr, » rétorqua le vendeur. « S'agissait-il d'un 22, d'un 38 ?»
Ou encore, montrez-moi ce tableau et je vous le dirai.
À l'instant, le vendeur décocha un regard peu convaincu à l'homme en bleu, puis haussa les épaules. Après tout, merde, le client avait toujours raison, même dans l'erreur, du moment qu'il avait de quoi payer.
J'ai une Bible du tireur. Peut-être devriez-vous y jeter un coup d'œil.
Certainement. Le pistolero sourit.
Bible du tireur, quel beau titre pour un livre.
L'homme fouilla sous le comptoir et en ramena un volume dont la tranche noircie témoignait d'une utilisation fréquente et dont l'épaisseur n'avait rien à envier à celle des rares livres que le pistolero avait vus dans sa vie. Le vendeur le maniait pourtant comme s'il n'avait pas plus de valeur qu'une poignée de cailloux. Il l'ouvrit sur le comptoir et le retourna face à Rolland.
Regardez. « Mais si c'est un vieux modèle, vous tirez dans le noir. »
Il parut surpris, puis sourit.
« Excusez un jeu de mots. »
Rolland ne l'écoutait plus. Il était penché sur le livre, examinait des images qui avaient l'air presque aussi réelles que les objets représentés, d'extraordinaires images que la Mortcyclopédie lui disait être des photographies. Il tournait les pages avec lenteur.
Non, non, non. Et avait pratiquement perdu tout espoir de trouver ce qu'il cherchait quand il tomba dessus. Une telle excitation brillait dans ses yeux quand il les leva sur le vendeur que celui-ci en fut vaguement effrayé.
« Là !» dit Roland. « Celle-là, là !»
La photo sur laquelle son doigt semblait tétanisé était celle d'une munition de 45 pour pistolet Winchester. Bien que cette cartouche ne fût pas l'exacte réplique des siennes pour n'avoir été ni façonnée ni chargée à la main, il n'avait nul besoin d'en consulter les cotes, lesquelles n'auraient d'ailleurs pas eu grand sens à ses yeux, pour constater qu'elle s'ajusterait sans problème dans les alvéoles de ses barillets et réagirait de même à la retombée du percuteur.
« Bon, parfait, vous avez trouvé votre bonheur, ce que je vois, » dit le vendeur. « Mais il n'y a pas de quoi jurer dans vos jeans, l'ami. Ma foi, ce ne sont que des balles. Vous les avez en magasin ?»«
Évidemment. Il vous en faut combien de boîtes ?»
« Il y a combien de cartouches dans une boîte ?»«
50. » Le regard que le vendeur posait sur le pistolero se teinta d'un net soupçon. Si ce type avait l'intention d'acheter des balles, il devait être au courant qu'il allait avoir à montrer un permis de port d'armes avec photo d'identité. Pas de munitions pour armes de poing sans présentation d'une pièce officielle en bonne et due forme, telle était la loi dans ce quartier de Manhattan. Or, s'il avait cette autorisation, comment pouvait-il être à ce point ignorant sur le conditionnement classique des cartouches ?
50.
Et voilà que le mec le regardait la bouche pendante. Sûr, il avait affaire à un timbré. Il se décala légèrement sur la gauche, se rapprochant de la caisse enregistreuse, se rapprochant aussi, sans qu'il fallût vraiment y voir une coïncidence, du Magnum 357 chargé qui reposait en permanence dans son râtelier sous le comptoir.
« 50 !» répéta le pistolero.
Il s'était attendu à 5, à 10, aurait peut-être été jusqu'à 12, mais tant que ça !«
Qu'est-ce que tu as sur toi comme argent ? »
s'enquit-il auprès de la morte cyclopédie qui dit n'en rien savoir.
Enfin, pas avec précision, estimant toutefois que son portefeuille ne contenait pas moins de 60 tickets.
« Et combien coûte une boîte ?» L'autre allait lui annoncer un chiffre supérieur à 60, supposa Roland. Mais peut-être arriverait-il à le convaincre de lui vendre des cartouches au détail, ou encore...
« 17,50 $, répondit le vendeur. « Mais auparavant, monsieur... »
Jack Mort était comptable, et il n'y eut cette fois aucun délai d'attente, conversion et réponse franchir ensemble la ligne d'arrivée.
« 3 !» fit le pistolero. « 3 boîtes.
150 cartouches. Dieu du ciel, quelle corne d'abondance insensée que ce monde !» Le vendeur n'avait pas l'air de vouloir bouger.
« Vous n'en avez pas autant ?»
Roland n'était pas vraiment surpris. Ça avait été un beau rêve.
« Oh si, j'ai tout ce qu'il faut en Winchester 45 !»
Le vendeur fit un deuxième pas sur la gauche, un deuxième pas qui le rapprocha encore un peu de la caisse et du magnum. Si ce type était un dingue, hypothèse qu'il s'attendait à voir confirmée d'une seconde à l'autre, il allait bientôt s'agir d'un dingue avec un gros trou quelque part au milieu du corps.
« Sûr que j'en ai des balles de 45 !»«
Mais ce que j'aimerais savoir, monsieur, c'est si vous, vous avez votre carte ?»
« Quelle carte ?»«
Un permis de port d'armes, avec votre photo dessus. Je n'ai le droit de vous vendre des munitions pour armes de poing que sur présentation de cette pièce.
Maintenant, si vous n'en avez pas, il vous reste la solution de monter acheter vos cartouches à Westchester. »
Le pistolero posa sur le vendeur un regard vide. Il n'avait rien compris. Sa morte cyclopédie avait bien une vague idée de ce à quoi l'homme faisait allusion, mais trop vague justement pour qu'on pût s'y fier. Mort n'avait jamais eu d'armes. Il s'était toujours débrouillé pour faire son sale boulot autrement. Le vendeur fit un nouveau pas sur la gauche sans détacher les yeux de son client.
« Il est armé, » se dit Rowland. « Il s'attend à ce que je fasse une connerie. Et il veut que j'en fasse une, histoire d'avoir un prétexte pour me tuer. »
Improvisé. Il repensa aux pistoleros un peu plus bas sur la rue dans leur voiture blanc et bleu. Des gardiens de la paix, des hommes chargés de faire obstacle aux modifications du monde. Mais le bref regard qu'il leur avait jeté au passage ne lui avait pas révélé des êtres moins mous, moins dénués de vigilance que tout autre en ce monde de l'autophage, rien que deux types en uniforme avachi dans leur véhicule à siroter du café. Il pouvait les avoir jugés trop vite, espérait toutefois pour eux ne s'être pas trompé.
« Ah oui, bien sûr !» fit Rowland, et il imprima un sourire d'excuse sur les traits de Jack Mort.
« Désolé, je crois n'avoir pas mesuré combien le monde a changé depuis la dernière fois où j'ai eu un pistolet à moi. »«
Il n'y a pas de mal, » lui fut-il répondu, mais le vendeur ne se détendit qu'un peu. Peut-être ce type était-il normal après tout, mais peut-être ne faisait-il que donner le change.
« Est-ce que je pourrais voir ce kit de nettoyage ?» demanda le pistolero, la main tendue vers une étagère derrière l'homme.
« Bien sûr !»
L'autre se retourna pour prendre le coffret, et le pistolero fit sauter le petit bissac de la poche intérieure de Jack Mort. Le fit avec la même dextérité qu'il dégainait. Le vendeur ne lui tourna pas le dos plus de 3 secondes, et quand il lui refit face, le portefeuille était par terre.
« Une merveille !» disait maintenant le vendeur, ayant opté pour la normalité du type.
« Ouais !» Il savait la touche qu'on pouvait avoir quand on passe pour un connard total aux yeux des autres. Ça lui était arrivé assez souvent lors de son passage par les Marines. Et pas besoin d'un foutu permis pour acheter ce genre d'article.
« C'est-il pas beau la liberté ?»«
Sûr !» approuva gravement le pistolero qui prétendit s'absorber dans l'examen du kit de nettoyage, même s'il n'avait pas eu plus d'un coup d'œil à lui accorder pour s'apercevoir que c'était de la camelote dans un emballage tape à l'œil, mais camelote y tout. Ce faisant, il repoussa du pied le portefeuille de morte jusque sous le comptoir. Au bout d'un moment, il mit un terme à sa curiosité feinte sur un médiocre numéro de regret.
« Je crains d'avoir à m'abstenir. »«
Comme vous voudrez, » fit le vendeur, perdant brusquement tout intérêt pour ce type qui n'était ni fou ni même acheteur potentiel, et avec qui, par conséquent, toute relation n'avait plus de raison d'être. « Autre chose, » articulèrent ses lèvres, alors que ses yeux disaient au costard bleu de débarrasser le plancher.
« Non, ce sera tout. Merci. »
Le pistolero sortit sans un regard en arrière. Le portefeuille de Mort était à l'abri des regards sous le comptoir. Rowland venait lui aussi d'installer un pot de miel. 7. Leur café terminé, les agents Carl Delevan et George O'Meara s'apprêtaient à transporter ailleurs leur pénate quand l'homme au complet bleu sortit de chez Clemens, que les deux flics pensaient être une poire à poudre. Argot de police pour désigner une armurerie ayant pignon sur rue, mais comptant parmi ses clients des truands indépendants dotés de papiers en règle et ne dédaignant pas non plus, éventuellement pour de grosses commandes, de traiter avec la mafia. Et marcha droit sur leur voiture. Arrivé à sa hauteur, il se pencha du côté passager et son regard se posa sur O'Meara, lequel s'attendit à une voix au perché. Peut-être avec ce zézément qu'il avait imité tout à l'heure pour sa vanne des menottes mauves. Bref, une voix de PD. Au commerce des armes, Clemens ajoutait avec profit celui des menottes. Elles étaient en vente libre à Manhattan, et leurs acheteurs n'avaient généralement rien des émules de Houdini. Ce qui déplaisait souverainement aux flics. Mais depuis quand la vie des flics changeait-il quoi que ce soit? Les acheteurs, donc, étaient des homosexuels avec de vagues tendances sadomaso. L'homme, toutefois, ne semblait pas en être. Il s'exprimait d'une voix posée, sans intonation particulière, polie, mais comme morte. « Le tenancier de ce magasin m'a pris mon portefeuille. »«
Qui ?»
O'Meara s'était redressé d'un bond.
Voilà 1 an et 6 mois qu'ils essayaient de pincer Justin Clemens. Si la chose était possible, elle leur donnerait peut-être une chance de troquer leur uniforme bleu contre une plaque d'inspecteur. Encore une fois, la désillusion n'allait sans doute pas manquer à l'appel. C'était trop beau pour être vrai. Mais quand même. Le négociant, le vendeur, O'Meara et Carl Delevan échangèrent un regard. Des cheveux noirs ? Demanda Delevan. Plutôt rondouillard ? De nouveau, la plus brève des pauses. Oui, et des yeux marrons, une petite cicatrice sous l'un d'eux. Il y avait quelque chose de bizarre chez ce type. Sur le moment, O'Meara n'arriva pas à mettre le doigt dessus, mais ça devait lui apparaître beaucoup plus tard, à une époque où il n'aurait plus grand-chose d'autre à quoi penser, et certainement plus l'occasion d'accrocher au revers de son veston la plaque dorée des inspecteurs. Que Delevan et lui fussent restés dans la police avaient déjà tenu du miracle. Mais des années après, il y avait eu cette brève épiphanie mise à profit pour emmener ces deux gosses au musée de la science, à Boston. Ils y avaient vu une machine, un ordinateur, qui jouait au morpion et vous baisait à tous les coups pour peu que vous n'ayez pas fait d'entrer votre croix dans la case du milieu. Il lui fallait toutefois, et systématiquement, marquer une pause pour consulter ses banques de données, faire l'inventaire des mouvements possibles. Il en était resté fasciné, comme ses gosses, mais sans pouvoir se défendre d'un certain malaise. Puis, Costard Bleu lui était revenu en mémoire. Il s'en était souvenu parce que Costard Bleu avait eu la même putain d'attitude. Lui parler avait été comme de parler à un robot. Delevan n'avait jamais ressenti pareille impression, mais 9 ans plus tard, alors qu'un soir il avait emmené son propre fils au cinéma, le gamin avait 18 ans et entrait à l'université. Delevan devait brusquement se lever après une demi-heure de film et beugler. « C'est lui ! C'est lui, le type dans son putain de costard bleu ! Le type qui sortait de chez Clem... » Quelqu'un allait lui gueuler « Assis là-devant !» Mais n'eût pas à se donner cette peine, il n'en serait pas même au « là » que Delevan, avec ses 35 kilos de trop et toutes les cigarettes qu'il s'était fumées, serait déjà tombé, raide mort, terrassé par une crise cardiaque. Entre l'homme en bleu qui les avait abordés ce jour-là dans leur voiture pour leur parler de son portefeuille et la vedette du film, pas de ressemblance. Mais le même débit mort des mots, la même grâce implacable des mouvements. Ce film, bien sûr, avait pour titre « Terminator ». 8. Les deux flics échangèrent un regard. Costard Bleu ne parlait pas de Clemens, mais d'un gibier presque aussi bon. Johnny Holden, dit gras double, beau-frère de Clemens. Cela dit, une couillonnade monstre comme chouravait le portefeuille d'un Pékin serait tout à fait dans la ligne de ce pauvre type, acheva O'Meara, et il lui fallut porter la main à sa bouche pour dissimuler un sourire momentanément irrépressible. « On aurait peut-être mieux nous expliquer exactement ce qui s'est passé, » fit Delevan. « Commencez par nous dire votre nom, par exemple. » Encore une fois, la réponse de l'homme fit un drôle d'effet à O'Meara. Dans cette ville où on avait parfois l'impression que les 3/4 des gens prenaient « va te faire foutre » pour un synonyme de bonne journée, il s'était attendu à ce que le type lâche un truc du genre « Hé, les mecs, je vous rappelle que cette ordure a fauché mon portefeuille. Vous comptez faire quelque chose pour que je le récupère ou allons-nous continuer à jouer au jeu des 20 questions ?» Mais il y avait le costume de bonne coupe et les ongles soigneusement manucurés. Bref, la touche d'un type probablement rompu au merdier bureaucratique. En fait, George O'Meara ne s'y attarda guère. La perspective de coincer gras double et de s'en servir pour faire tomber Arnold et Justin Clemens le faisait saliver. Le temps d'une vertigineuse incursion dans un avenir glorieux, il se vit même utiliser Holden pour atteindre par-delà les Clemens quelques très gros bonnets. Balazar, par exemple, ou cet autre Rital à défaut, Ginelli. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Je m'appelle « Jack Mort, » dit l'homme. Delevan avait sorti de sa poche un bloc passablement enclin à s'ouvrir en éventail.
Adresse. Légère pause.
Une machine, pensa de nouveau O'Meara à la frontière de sa conscience. Un temps de silence suivi d'un clic presque audible.
409 Park Avenue South.
Delevan coucha l'adresse sur le papier.
Numéro de sécurité sociale.
Nouvelle pause. Puis Morte énonça les chiffres.
Comprenez que ces éléments d'identité sont indispensables. Si ce type vous a effectivement pris votre portefeuille, ce sera chouette que je puisse détailler un peu son contenu avant de le récupérer. Vous comprenez ?
Oui. Une note d'impatience venait de percer dans la voix de Costard Bleu, rassurant O'Meara de quelque manière.
Simplement que ça ne se prolonge pas outre mesure. Le temps passe et on ne sait jamais. Ouais, je pige.
C'est ça. On ne sait jamais, approuva l'homme aux trois pièces bleues.
Vous avez une photo particulière dans votre portefeuille ?
Pause. Puis, oui, de ma mère, devant l'Empire State Building. Il y a écrit au dos, une journée fantastique, une vue merveilleuse, ta maman qui t'aime.
Delevan coucha la dernière tartine d'un stylo rageur, puis claqua son bloc aussi violemment que le permettait le coussinet des feuillets épaissis.
Bon, je crois que ça ira. La dernière chose qu'on vous demandera tout à l'heure, si on récupère votre bien, c'est un exemplaire de votre signature pour comparer avec celle de vos permis de conduire, carte de crédit et le Saint-Frusquin. Ok ?
Rand acquiesça, néanmoins conscient que s'il avait toute latitude pour puiser dans le réservoir des souvenirs et connaissances de Jack Mort, il n'avait pas la moindre chance d'en reproduire la signature sans la participation active d'un Mort pour l'heure évanoui.
Dites-nous ce qui s'est passé.
Je suis entré acheter des balles pour mon frère. Il a un revolver, un Winchester 45. Cet homme m'a demandé si j'avais un permis de port d'armes. Je lui ai dit que oui, et il a voulu le voir.
Pause.
J'ai sorti mon portefeuille pour lui montrer ce qu'il demandait. Mais quand je l'ai ouvert, il a dû voir qu'il y avait là une quantité appréciable de billets de vin. Il faut vous dire que je suis expert comptable et que j'ai un client, un nommé Dorfman, qui vient de gagner son procès contre le fisc et d'obtenir la restitution d'un trop perçu. Ça n'allait pas très loin, $800. Mais ce type, Dorfman, est le plus gros nœud qu'on ait jamais eu sur les bras. Excusez l'image.
O'Meara se repassa dans la tête la dernière phrase de l'homme et comprit soudain.
Le plus gros nœud qu'on ait jamais eu sur les bras. Pas mal. Il éclata de rire.
Tout ce qui allait déclencher la comparaison a posteriori avec un robot ou un ordinateur jouant au morpion lui sortit de la tête. Ce type était simplement hors de lui et tentait de cacher sa colère sous un humour froid.
Quoi qu'il en soit, Dorfman voulait du liquide. Il s'est montré sur ce point, on ne peut plus insistant.
Vous avez donc eu l'impression que Gradouble guignait la galette de votre client ? Résuma Delevan alors que lui et O'Meara descendaient de voiture.
C'est le nom que vous donnez au type qui tient cette boutique ?
« Nous lui en donnons d'autres encore moins flatteurs à l'occasion, » précisa Delevan.
« Et que s'est-il passé quand vous lui avez montré votre port d'armes, Monsieur Mort ?»«
Il a demandé à le voir de plus près, alors je lui ai tendu le portefeuille. Il l'a pris, mais pas pour regarder la photo, pour le laisser tomber par terre. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, et il m'a répondu que... c'était une question stupide. Je lui ai dit de me rendre immédiatement mon portefeuille.
J'étais fou de rage. Je veux bien le croire. Mais un coup d'œil sur les traits marmoréens de Costard Bleu fit douter d'Elevan que celui-ci pût jamais perdre son sang-froid. Il n'a fait qu'en rigoler. J'allais contourner le comptoir pour lui faire sa fête quand il a sorti son arme. Ils avaient pris la direction du magasin, mais se retrouvèrent soudain immobiles. C'était plutôt le brusque regain d'intérêt qu'une quelconque inquiétude. « Son arme ?» répéta O'Meara, voulant être sûr d'avoir bien entendu. « Oui. Elle était sous le comptoir, près de la caisse enregistreuse, » poursuivit l'homme en bleu. Roland se rappelait comment il avait failli laisser tomber son projet initial pour simplement devancer le geste du vendeur et s'emparer du revolver. Il expliquait maintenant aux deux pistoleros pourquoi il n'en avait rien fait. Il voulait se servir d'eux, pas les envoyer au casse-pipe. « Dans un crampon de débardeur, je crois. »« Un quoi ?» fit O'Meara. Cette fois, la pause fut plus longue. Le front de l'homme se barra d'un pli. « J'ignore le terme exact, mais c'est quelque chose dans quoi on met son arme. Personne ne peut vous le prendre par surprise, à moins de savoir comment libérer le ressort. »« Un étrier à mécanisme !» s'écria Delvan. Nouvel échange oculaire entre les deux coéquipiers. Aucun n'était très chaud pour être le premier à dire au plaignant que d'ores et déjà, Gradouble avait probablement vidé le portefeuille de son argent, traîné ses miches jusqu'à la porte de derrière et balancé la pièce à conviction par-dessus le mur de la ruelle dans la cour d'un voisin. Mais une arme à feu dans un étrier à mécanisme, voilà qui changeait tout. Si une inculpation pour vol restait envisageable, une autre pour dissimulation d'armes dissuasives se présentait soudain comme acquise. Rien de bien génial peut-être, mais qui leur calait un pied dans l'entrebâillement de la porte. « Ensuite ?» demanda O'Meara. « Ensuite ?» Il m'a dit que je n'avais jamais eu de portefeuille. « Il a prétendu... » Pause. « Que j'étais tombé sur un pot de piquet, sur un pickpocket, je veux dire, en venant chez lui, et que j'avais intérêt à m'en souvenir si je voulais rester en bonne santé. Je me suis alors rappelé avoir vu une voiture de police garée un peu plus bas dans la rue, et je me suis dit que vous étiez peut-être toujours là. Je suis donc sorti. « Bon, » dit Delevan, « moi et mon coéquipier, on va y aller d'abord. Vous nous laissez... « Une minute, une bonne minute, pour le cas où il y aurait des problèmes. Puis vous pointez. Mais vous restez sur le pas de la porte, compris ?»« Ouais. Parfait. Allons cueillir cette ordure. » Les deux flics entrèrent. Roland n'attendit pas plus de 30 secondes pour les y suivre.